Je vous invite maintenant donc à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1. Donc nous sommes en train d'étudier cette épître depuis quelques temps. Et nous avons vu que dans ces premiers versets, chapitre 1, qui vont du verset 3 jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul prie pour ces chrétiens de Philippe. Il dit pourquoi il prie, verset 9 jusqu'à verset 11. Et auparavant, il dit quelle est son attitude dans la prière pour eux, sa joie, la confiance qu'il a en Dieu pour ces chrétiens de Philippe. Et à partir du verset 12, on voit bien que le ton change. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 12, l'apôtre Paul parle de sa situation personnelle. Alors avant de lire cela, imaginez que vous êtes comme Paul. Je vous rappelle que Paul, il est en prison à Rome, emprisonné depuis 2 ans déjà. Il avait déjà fait 2 ans de prison à Césarée, et là 2 ans de prison à Rome, ça fait 4 années de captivité où il est enchaîné. Et il écrit pour partager sa situation personnel à ces chrétiens qui sont inquiets, d'accord. Imaginez ce que vous auriez écrit. Ça fait 4 ans que vous êtes sur un lit d'hôpital, 4 ans que vous passez par des épreuves qui sont difficiles, douloureuses, et vous pouvez écrire une lettre pour parler de vous. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que on serait comme l'apôtre Paul? Est-ce qu'on parlerait comme lui? Ou est-ce qu'il sortirait autre chose dans notre lettre? Est-ce que nous serions pleins? Parfois, quand les difficultés surviennent, que la souffrance nous atteint, eh bien, il arrive qu'on soit vraiment désemparé. Il y a une foule de questions qui peuvent surgir de notre pensée. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Ou pourquoi à moi? Ou parfois, on se pose des questions sur Dieu lui-même. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu veut mon bien? Est-ce qu'il veut mon bonheur? Et parfois même, certains se mettent en colère contre Dieu. J'ai entendu des gens parfois dire « j'en veux à Dieu » dans cette situation. Ce n'est pas juste. Je sers Dieu. Pourquoi est-ce que celui qui ne le sert pas, il est dans cette situation de bonheur, et moi qui sers Dieu, bien c'est souffrance sur souffrance. Ça pourrait être donc une attitude peut-être qu'on laisserait transparaître dans un courrier qu'on écrirait au bout de 4 ans de difficultés. Mais ici, on voit que l'apôtre Paul, il n'en est pas du tout ainsi pour l'apôtre Paul. Alors, nous allons lire les versets 12 jusqu'au verset 18. Verset 12 jusqu'au verset 18, Philippiens chapitre 1. Paul écrit à ses Philippiens, il leur dit, écoutez ceci, c'est la parole de Dieu. Il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire, partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Prions. Seigneur, nous te demandons que tu nous aides et que tu illumines nos cœurs par ton esprit afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi. Amen. Voilà, Paul est dans les difficultés, chers frères et sœurs, et qu'est-ce qu'il écrit à cette église de Philippe? Et je crois qu'il écrit pour leur donner une vision juste des circonstances difficiles. Et ça, c'est le titre de mon message ce matin, une vision juste des circonstances difficiles. Il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Première chose que Paul pourrait dire, on pourrait tirer comme enseignement de ce que Paul dit à ses Philippiens, c'est que Dieu utilise les circonstances difficiles pour montrer sa providence. Dieu utilise les circonstances difficiles pour montrer sa providence. Qu'est-ce que la providence? Si vous prenez le Larousse, Larousse dit que c'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. Tout ça bien dans le Larousse. La fin, il dit ici, c'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. Il nous est facile d'admettre ou d'attribuer à Dieu les choses, entre guillemets, heureuses qui nous arrivent. Quand quelque chose de bien se passe dans notre vie, on dit « Oh, Dieu est bon, Dieu a permis que... » Mais quand les choses sont difficiles, c'est beaucoup plus difficile aussi d'admettre qu'elles sont conduites par Dieu dans sa providence. Et certainement, les Philippiens étaient inquiets pour tout ce qui est arrivé lorsqu'ils ont appris ce qui est arrivé à Paul. Ils étaient inquiets pour tout ce qui est arrivé à Paul. Et Paul leur écrit en leur disant, ce qui m'est arrivé, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé. Et il parle de tout ce qui s'est passé depuis certainement ces 4 dernières années, depuis son arrestation à Jérusalem à la fin de son 3e voyage missionnaire. Vous rappelez lorsqu'il monte, vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 21 jusqu'au chapitre 28. Hein. Tout ça, c'est l'emprisonnement et le voyage de Paul jusqu'à Rome. Donc depuis cet instant, il a été arrêté dans le temple à Jérusalem et puis transporté jusqu'à Rome où il est en prison. Et on n'aura pas le temps de lire tout cela, mais lorsque Paul quitte la Crète et qu'il remonte vers Jérusalem, eh bien il apprend que la fin approche. Et lui-même, il dit, maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et quand il arrive à Jérusalem, il est arrêté dans le temple au bout de 7 jours. Il est traîné à l'extérieur pour être tué. Il commençait à le lapider et les soldats arrivent, ils débarquent et ils l'arrachent pour le sauver. Donc il est sauvé, on pourrait dire, in extremis par les soldats romains. Vous trouvez ça dans Actes chapitre 21, versets 27 à 36. Et le lendemain, il comparaît devant le Sanhédrin et là, les soldats sont obligés encore de l'arracher parce qu'il y a une vive discussion entre les Sadducéens et les pharisiens. Et la Bible dit que les soldats ont eu peur que Paul ne soit mis en pièces. Et ils l'arrachent pour le sortir de cette situation. Et un peu plus tard, 40 personnes montent un complot pour le faire tuer. Cela arrive aux oreilles des militaires, du tribun. Et donc, ils font évacuer Paul jusqu'à Césarée. Et là, il est en prison à Césarée. La Bible dit qu'il reste là pendant 2 ans. Il comparaît devant Agrippa, Festus, et puis finalement, il demande à être jugé à Rome. La Bible dit qu'il en appelle à Rome. Et le texte termine en disant qu'il aurait pu, je pense que c'est Agrippa qui dit ça, et cet homme aurait pu être relâché s'il en avait appelé à César. Donc comme il est appelé à César, bien c'était son droit de citoyen romain. Il est transporté donc par navire jusqu'à Rome, mais vous vous rappelez, son navire fait naufrage. Son navire fait naufrage. Et c'est un long voyage avec beaucoup de difficultés. Enfin, il arrive à Rome et certainement, il faut marcher encore jusqu'à la prison. La Bible dit qu'il est pas dans une prison standard, il est dans une maison avec une certaine marge de liberté, mais il est gardé par, il y a un soldat qui le garde jour et nuit. Et donc, pendant 4 ans, Paul vit des situations difficiles. D'ailleurs, si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, hein, il raconte toute sa souffrance. Hein. Il dit qu'il est serviteur de Christ, qu'il est apôtre, il est par les souffrances, par les coups. Il dit qu'il a été maltraité, laissé pour mort. Enfin, il raconte vraiment tout ce qui lui est arrivé dans son ministère. Et c'est un homme qui est passé par des situations extrêmement difficiles. Et là, il est en prison, il écrit. Et la première chose qu'il dit concernant sa situation à ses Philippiens, c'est que je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ce qui lui est arrivé, ces choses difficiles, eh bien, ont contribué au progrès de l'Évangile. Et c'est ainsi qu'il veut orienter la pensée des Philippiens. Quand il dit cela, c'est pour que les Philippiens puissent saisir quelque chose, c'est que Dieu utilise les circonstances pour montrer sa providence. C'est à cause de Christ qu'il est dans cette situation. Il les force, on pourrait dire, à abandonner la manière naturelle de considérer les choses, parce qu'il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué. C'est-à-dire qu'il y a une manière naturelle de dire que les circonstances difficiles, bien voilà, c'est à cause des autres, à cause des ennemis, à cause du diable, à cause de ceci. Mais il dit, je veux que vous puissiez regarder les choses autrement, plutôt que de considérer les choses d'un point de vue humain, il faut les considérer d'un point de vue divin. Et donc, il les force à abandonner la manière humaine de considérer les circonstances difficiles pour les regarder du point de vue de la providence de Dieu. Et ce que Paul dit aux Philippiens, c'est ceci, en fait. Il dit, les circonstances difficiles sont les servantes de Dieu. Les circonstances difficiles sont les servantes de Dieu pour accomplir son plan. Et c'est plutôt ainsi qu'il faut considérer les choses. Les circonstances, qu'elles soient faciles ou difficiles, sont des instruments que Dieu ordonne à sa guise. Et le bonheur du croyant ne sera pas dans la nature de ces circonstances, mais dans la confiance que les circonstances servent Dieu. La joie du chrétien, du croyant, ne sera pas dans la nature de ces circonstances, mais dans la confiance que ces circonstances sont dans les mains de Dieu et qu'elles servent Dieu. Et que Dieu contrôle même les circonstances difficiles. Un puritain du nom de Thomas Watson dit ceci, il dit, dans toutes les afflictions, il est réconfortant de savoir que Dieu y a sa main. Ce n'est pas en fait le fait que c'est confortable qui est une joie, c'est le fait de savoir que la main de Dieu est dans l'affliction. C'est ça qu'il y a de réconfortant. Si vous prenez l'exemple de Joseph, par exemple, eh bien, Joseph, lorsqu'il retrouve ses frères, vous vous rappelez au chapitre 45 du livre de la Genèse, quand il finit par se présenter à eux, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais il ajoute, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et il ajoute, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il dit, vous m'avez vendu pour être livré en Égypte, mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et plus tard, lorsque ils viennent, ils ont peur, Jacob meurt, au chapitre 50, ils ont peur que finalement, comme le père n'est plus là, peut-être que Joseph, le prince d'Égypte, eh bien, il va vouloir se venger contre lui, il suffit qu'il dise un mot, et puis ils ont tous la tête coupée, hein. Il est le numéro un en Égypte. Et il monte un petit truc pour dire, mais notre père a dit, etc., etc. Ils ajoutent un petit mensonge pour dire que Jacob avait dit de prendre soin d'eux, puis Joseph dit, mais suis-je Dieu pour... Il dit, je vais vous entretenir, n'ayez pas peur. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et c'est pour sauver un peuple nombreux qu'il m'a envoyé ici. Et donc, Joseph saisit que ces circonstances difficiles qu'il a vécues, et il est conscient Si vous lisez le livre de la Genèse, il parle de ses afflictions. Il a même donné à un de ses fils un nom qui est en rapport avec l'affliction qu'il a subie. Donc, il n'est pas dans le déni de réalité. Il sait que ça a été difficile. Mais il dit néanmoins que c'est Dieu qui a été au contrôle de ces choses. Et même que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. On pourrait prendre l'exemple de Job. Que dit Job dans sa souffrance? À un moment donné, sa femme lui dit, mais tu restes intègre envers Dieu. Il dit, mais maudit Dieu et meurs. C'est ce que tous les hommes normaux auraient fait. À quoi ça sert de... Tu es dans la souffrance, tu n'as plus que la peau sur les os. Il dit, maudit Dieu et meurt. Et Job dit, oh, tu racontes n'importe quoi. Il dit à sa femme, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et il semble que Augustin a fait remarquer ceci, il a dit, Job n'a pas dit l'Éternel a donné et le diable a ôté. Parfois nous parlons comme ça, Dieu m'a donné ceci mais le diable me l'a enlevé. Il dit l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Même si nous, quand nous lisons, nous voyons que Dieu a dit à Satan, va, touche à ce qui lui appartient, etc., etc. Mais Job, il dit, l'Éternel a donné, et c'est l'Éternel qui a ôté. Naomi, quand elle est dans sa souffrance, qu'est-ce qu'elle dit? Le Tout-Puissant m'a affligé. Le Tout-Puissant m'a affligé. Et donc, toutes ces personnes qui connaissent Dieu véritablement, attribuent toujours à Dieu ce qui leur arrive. Même Paul, lorsqu'il parle de cet ange de Satan qui a été mis dans sa chair pour le souffleter et l'empêcher de s'enorgueillir, il prie Dieu à chaque fois. Il parle juste pour dire que c'est dans Satan, mais après, son esprit est concentré sur Dieu. Parce que Dieu utilise les circonstances pour montrer sa providence. Et je pense que c'est ce que Paul montre à ses Philippiens. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Dieu a contrôlé toutes ces choses. Alors, ne vous affligez pas, ne soyez pas tristes, ne soyez pas inquiets. Dieu contrôle toutes choses. Deuxièmement, on pourrait dire que aussi que Dieu utilise les circonstances difficiles comme des opportunités au progrès de l'Évangile. Dieu utilise les circonstances difficiles comme des opportunités pour faire progresser l'Évangile. Si on nous demandait d'indiquer ce qu'il faut pour que l'Évangile se propage efficacement, que dirions-nous? Peut-être il faut la liberté, il faut de la mobilité. Il faut pouvoir bouger, aller ici, aller là, organiser une réunion de plein air par ici, faire ceci par là. Et certes, il faut faire aussi des choses comme cela. Mais ici, Dieu montre que pour propager l'Évangile de manière efficace à Rome, il faut la captivité. Pour propager l'Évangile de manière efficace à Rome, ici, il montre qu'il faut la captivité. Je veux que vous sachiez, dit Paul, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Naturellement, on pourrait penser que ça aurait stoppé l'Évangile, l'avancée de l'Évangile. Mais Paul dit non, c'est le contraire qui est arrivé. L'Évangile a progressé. Et le mot progresser ici traduit celui de frayer un chemin. C'est comme les éclaireurs qui vont avant la troupe et puis qui débroussaillent la route, taillent un chemin dans la forêt, par exemple, abattent les arbres pour que l'armée puisse passer avec facilité. Et donc, d'un point de vue humain, cette situation très difficile pourrait contribuer au découragement et à l'arrêt net de l'Évangile. Mais en réalité, Paul dit que c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Dieu utilise les circonstances difficiles comme des opportunités pour le progrès de l'Évangile, car les circonstances difficiles permettent de révéler plus clairement le témoignage de Christ dans le croyant. Je le redis, Dieu utilise les circonstances difficiles comme des opportunités au progrès de l'Évangile parce que les circonstances difficiles permettent de révéler plus clairement le témoignage de Christ dans le chrétien. Regardez au verset 13 ce que Paul dit. Il dit « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Je relis dans la version Darby, il dit « En sorte que mes liens sont devenus manifestes comme étant de Christ. » Il dit qu'il y a quelque chose qui s'est clarifié. Il est évident pour tout le monde, il est devenu clair pour tout le monde que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Ce que Paul dit, c'est que dans la contrainte, dans la douleur, même de la jalousie, il dit qu'il y a des gens qui prêchent, on a lu, qui prêchent Christ par esprit de parti, par envie. Dans l'incertitude même quant à sa situation, hein, chapitre 2, verset 23, il dit que, bon, il ne sait pas, il ne connaît pas encore l'issue de sa situation. Eh bien, dans toute cette situation, Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu témoignage à Christ. Lorsque Paul était en prison à Philippe, 10 ans auparavant, vous vous rappelez, avec son frère et son compagnon d'œuvre, Silas, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques, les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils n'ont pas chanté de manière... On va juste faire une petite réunion entre nous deux. Autour, c'est des païens, ils n'ont pas besoin d'entendre. Non, ils ont chanté et ils ont prié de manière, c'était certainement volontaire, à ce que les autres entendent. Et quand ils ont été sous la pression, ce qui est sorti, c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit ici aux Philippiens. Il dit, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, en sorte que personne, il dit dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore. Il est devenu évident, il est devenu clair que c'est à cause de Christ que je suis dans les liens. C'est dans la pression que se révèle toujours plus clairement ce que nous sommes vraiment. C'est dans la pression que se révèle toujours plus clairement ce que nous sommes vraiment. Lorsque Dieu dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? C'est un homme intègre. » Vous vous rappelez de ce que Satan dit à Dieu ? Je vais vous lire. Il dit, « Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé ? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et Satan dit quelque chose qui est juste ici concernant la manière de se comporter des êtres humains. Il s'est trompé sur Job, mais... Non, mais en général, notre joie est intimement liée à nos circonstances. Et Satan dit, enlève-lui ce qu'il a et tu vas voir. Parce que il sait que même pour les chrétiens, sont capables de chanter Amen, Alléluia lorsque tout va bien. Mais quand la pression de l'affliction ou de la difficulté est là, c'est une autre question. C'est une autre question. Et Satan dit, enlève-lui ce qu'il a et tu verras. Et Dieu dit, vas-y. Et Job, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Il arrive jusqu'à n'avoir que la peau sur les os. Et il dit, même s'il me tue, je ne cesserai d'espérer en lui. Et Dieu a amené, je pense, Job jusqu'à ce point pour nous montrer aussi ce qui doit sortir d'un chrétien lorsqu'il arrive dans le dénuement le plus strict, lorsqu'il est dans le fond dans de la douleur et de la tristesse qui doit rejaillir de son cœur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Cela montre véritablement ce qu'il y a. Et c'est pour cela que Dieu utilise parfois les circonstances difficiles, parce qu'elles permettent de révéler plus clairement le témoignage de Christ dans le chrétien. Il y a beaucoup d'exhortations dans la Bible, n'est-ce pas? Mais on ne trouve pas beaucoup d'exhortations qui sont liées au fait que le chrétien aille bien, je sais pas. Par exemple, je sais pas. Hein. Si tout va bien, on n'est pas exhorté à faire en sorte que tout aille encore mieux. Mais souvent, les exhortations que nous trouvons dans la parole de Dieu sont toujours dans un contexte de difficulté. Vous avez remarqué cela? De choses contraignantes. On demande de tenir ferme parce qu'il y a de la difficulté. Hein? De tenir ferme dans les afflictions. Il n'est pas dit tenir ferme quand tout va bien. Parce que, bon, parfois, c'est beaucoup plus évident pour nous de nous sentir bien quand les choses sont faciles. Mais par exemple, je prends un exemple. Pierre dit, concernant la relation entre les serviteurs et les maîtres, que les serviteurs, soyez soumis en toute chose, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Et puis, il ajoute, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. On peut dire, ouais, mais le maître, c'est facile d'être soumis quand il est gentil. C'est facile qu'une femme soit soumise à son mari si lui, il est aimant. Par exemple. Mais s'il n'est pas aimant, c'est plus difficile. Mais Dieu dit, même quand c'est difficile, il faut obéir à la parole, il faut se soumettre. Surtout quand c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est précisément avec le maître d'un caractère difficile que va surgir plus clairement le caractère du vrai chrétien. Si vous mettez un chrétien et un non-chrétien dans des situations faciles, il y a de fortes chances pour que leur réaction soit la même. Mais si vous mettez un non-chrétien et un chrétien dans des situations extrêmement difficiles, là, il y aura une différence. Il y aura une différence qui va se montrer. Il ne va pas réagir comme tout le monde. Il ne va pas parler comme tout le monde. Il ne va pas critiquer comme tout le monde, il ne va pas s'énerver comme tout le monde. S'il a Christ en lui, cette situation difficile va faire surgir qu'il est à Christ. Et donc Dieu utilise aussi les circonstances difficiles comme opportunité pour le progrès de l'évangile, parce que à travers les situations difficiles, il y a une révélation plus claire que l'on est à Jésus-Christ et que Christ vit en nous. Et puis, je dirais que Dieu utilise les circonstances difficiles comme des opportunités à l'évangile, parce que les circonstances difficiles permettent d'encourager plus efficacement les autres. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et la plupart des frères, c'est le verset 14, hein, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quel est l'objectif de l'ennemi dans les situations difficiles? C'est de décourager l'ensemble des chrétiens. Le découragement, on dit, est une des armes préférées du diable. L'un des moyens pour décourager, souvent, est d'assombrir les circonstances, parce que, en général, les hommes vivent au gré des circonstances, du climat. Il fait beau, tout le monde est content. Il pleut, tout le monde est morose, comme le temps. Hein. On vit au rythme du temps. Et donc parfois les circonstances s'assombrissent, arrestation, emprisonnement, maladie, taille des difficultés, et puis cela suffit à décourager beaucoup. Mais ici, Paul dit que la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Comment est-ce que les chaînes de Paul ont pu être un encouragement pour les autres chrétiens? Ce ne sont pas les chaînes en elles-mêmes qui sont des encouragements. Une chaîne, c'est un objet inerte. C'est l'attitude de Paul dans cette situation d'enchaîné qui a été un encouragement pour les autres chrétiens. Ils étaient, certainement quand Paul a été arrêté, tout peureux, ils ont essayé, un peu comme les disciples, ils se sont cachés peut-être ils n'osaient plus parler, ils n'avaient plus de courage, plus d'assurance pour annoncer l'évangile. Et puis comme Paul avait une certaine liberté, ils pouvaient venir le voir, eh bien ils ont vu dans quel état il était et dans quel état d'esprit il était dans cette prison. Et ils ont trouvé non pas un homme qui se plaignait de son sort, ils ont trouvé un homme joyeux. Un homme qui pensait aux chrétiens. Un homme qui continuait à annoncer le salut en Jésus-Christ. Ils ont vu sa détermination, sa confiance en Dieu, ses prières. Ils ont même vu qu'il avait plein de projets d'écriture. Que fais-tu, Paul ? J'écris aux Éphésiens. Que fais-tu, Paul, par là ? Ben, j'écris aux Colossiens. Parce que c'est dans la prison qu'il a écrit les épîtres à Rome. Il a écrit Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon. D'accord ? Puis plus tard, il y avait l'épître de Paul à Timothée. Ce sont des épîtres, on appelle ça les épîtres de la captivité. Et quelles épîtres, chers frères et sœurs, quelles épîtres ? Et la Bible dit que les chrétiens ont été encouragés quand ils ont vu Paul agir dans ces circonstances difficiles. Et donc, les circonstances difficiles permettent d'encourager plus efficacement les autres. Ils sont encouragés, ils ont plus d'assurance pour annoncer l'évangile. Voir des chrétiens matures se comporter en milieu très hostile est propre à donner du courage aux autres qui sont dans les milieux peu hostiles. Et ça, c'est vrai. Quand on entend parler des chrétiens qui souffrent dans d'autres pays, ça nous fait réfléchir parfois, n'est-ce pas ? On se dit, mais j'ai toute cette liberté et je suis peureux. Et eux, avec toutes ces contraintes et ces interdictions, ils continuent inlassablement à propager l'évangile. Et donc, c'est un encouragement pour les chrétiens lorsqu'ils voient vivre d'autres dans les circonstances difficiles et qu'ils voient comment ils servent Dieu sans plainte, sans murmure, dans ces situations difficiles. Dieu utilise, n'est-ce pas, les circonstances difficiles comme des opportunités pour la propagation de l'évangile. Parce que les circonstances difficiles permettent de mettre plus clairement en évidence l'appartenance à Christ dans le croyant. Et puis, elles sont plus efficaces aussi pour encourager d'autres à marcher avec le Seigneur. Si vous êtes dans tout le confort possible et que vous dites à quelqu'un qui souffre un petit peu, mais fais confiance au Seigneur, c'est Dieu est grand, tu sais, il t'aidera, votre parole n'aura pas beaucoup de poids. Parce qu'il dit, oui, mais toi, tu ne sais même pas de quoi je vis. C'est comme les hommes politiques qui ne savent pas combien ça coûte une baguette, un ticket de métro, et après ils font. Alors les gens disent oui, mais eux ils savent même pas quelle est notre vie. Mais si vous êtes en face de quelqu'un qui souffre dans une situation 10, 15 fois plus terrible que la vôtre, et qui avec un sourire et une confiance vous dit quoi en Dieu, fais-lui confiance, il t'aidera. Là vous en prenez un coup, hein, vous dites mais qu'est-ce que je suis ingrat et qu'est-ce que je manque de reconnaissance envers Dieu. Voilà cet homme dans cette situation de dénuement qui m'encourage. Et beaucoup de gens souvent ont dit, quand ils sont allés voir des personnes à l'hôpital, j'étais allé pour visiter quelqu'un à l'hôpital, mais quand je suis arrivé, c'est cette personne qui m'a encouragé. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans une situation difficile et que la situation difficile est plus propice, elle est plus efficace pour que les autres puissent être encouragés. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'être dans une situation qui n'est pas difficile. Mais si ce que la parole de Dieu nous montre, c'est qu'il y a une efficacité et que Dieu utilise cela parce que, aussi, c'est efficace pour un témoignage puissant aussi auprès des autres. Et puis, je termine en disant que Dieu utilise les circonstances difficiles afin d'ancrer la joie du croyant dans l'Évangile et non dans les circonstances. Dieu utilise les circonstances difficiles afin d'ancrer la joie du croyant dans l'Évangile et non dans les circonstances. Lorsque Paul dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile », c'est un cri de joie qu'il pousse, quelque part. Il dit, oui, je suis en prison. Oui, je souffre. Il souffre. Quand il écrit à Timothée, depuis la prison de Rome, il dit, souffre avec moi. Il dit, je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Lui non plus, il n'est pas dans le déni des réalités. Il sait qu'il souffre. Il mesure sa souffrance. Mais il dit, je veux que vous sachiez que l'évangile a progressé. C'est comme si je disais, ah, Paul, c'est terrible, qu'est-ce que t'arrive ? L'évangile a progressé. Réjouissez-vous. Et c'est ce qu'il dit lorsqu'il y a d'autres personnes qui prêchent pour lui causer du tort, verset 18 du chapitre 1. Il dit, qu'importe s'ils le font avec de bonnes dispositions, Christ est prêché. Et il dit, je me réjouis et je m'en réjouirai encore. Je me réjouirai chaque fois que Christ est prêché, parce que moi je vis pour la cause de l'évangile. Quand l'évangile triomphe, Paul est dans la joie, parce que la cause de Christ avance. Et la joie est d'autant plus grande, qu'il se trouve dans une situation difficile. La joie est d'autant plus grande qu'il se trouve dans une situation difficile. Ce qui rend les gens heureux, chers frères et sœurs, ce sont souvent les circonstances dites heureuses. Mais Dieu veut que ses enfants apprennent la vraie joie. Et pour apprendre la vraie joie, il permet qu'ils vivent, qu'ils passent par des situations difficiles. Pour qu'ils puissent mettre leur joie dans le progrès, dans le succès de l'évangile, eh bien, il permet parfois qu'ils passent par des situations difficiles. Paul avait dit, je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. Il a connu les deux. Mais lui, que ce soit dans la disette ou que ce soit dans l'abondance, c'est pareil. Et nous, on a déjà un peu plus de mal dans l'abondance. Et puis dans la disette, parfois, on peut montrer notre insatisfaction. Mais Paul nous montre ici que Dieu utilise les circonstances difficiles afin que de détourner notre cœur des circonstances et l'attacher vraiment à l'Évangile. Et Paul, en écrivant aux Philippiens, il veut que leur joie ne soit pas dans ses circonstances à lui, heureuses, mais qu'elle soit dans la percée de l'Évangile. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ne pensez pas trop à ce qui m'est arrivé, pensez au progrès de l'Évangile. Donc, ne cherchez pas à ce que mes circonstances s'arrangent. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que l'Évangile progresse. C'est que l'Évangile progresse. Quand Paul écrit aux Philippiens, il dit, je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Je suis pauvre avec le pauvre, riche avec le riche, juif avec le juif, païen avec le païen. Je me suis fait tout à tous fort. Il dit, et je fais tout cela afin de gagner le plus grand nombre. Je fais tout, dit-il, à cause de l'Évangile. L'Évangile est sa cause. L'Évangile est sa cause. Le chrétien peut se réjouir d'une vraie joie dans les circonstances difficiles si son cœur est attaché à Christ. Et si sa cause, c'est l'Évangile. En 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, vous pouvez regarder cela avec moi, l'apôtre Pierre, 1 Pierre 4, verset 12, dit, 1 Pierre, chapitre 4, et au verset 12, l'apôtre Pierre dit, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Une de nos difficultés, c'est de croire que la souffrance est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai qu'on vit dans une partie du monde où on est quand même en paix. Mais il faut que le chrétien intègre que c'est exceptionnel. Si on prend l'histoire du monde, des périodes de paix comme cela sont exceptionnelles. Ce qui est exceptionnel, en fait, c'est de ne pas avoir de la souffrance. C'est ça qui est exceptionnel. Et Paul dit, Pierre dit, ne regardez pas comme quelque chose d'exceptionnel d'être dans la fournaise. Il dit, ça, c'est pas exceptionnel. C'est l'ordinaire. Paul disait, ceux qui veulent vivre pieusement
seront persécutés en louant Dieu. On remercie Dieu pour cette liberté que nous avons, pour cette paix que nous avons. Mais quand on lit l'histoire du monde, même maintenant, regardez, prenez l'ensemble des pays du monde. Il y a des endroits, beaucoup d'endroits, où il se passe des choses atroces, où les chrétiens souffrent terriblement, les non-chrétiens aussi, mais où les chrétiens souffrent terriblement. Et Pierre dit, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il dit, réjouissez-vous, verset 13, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et je continue. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, ce qu'est Paul ici, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quand le chrétien est outragé pour sa foi, c'est que l'Esprit de Dieu repose sur lui. C'est un sujet de gloire ici. Mais que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou comme voleur ou comme malfaiteur. Si vous avez volé dans un supermarché au Carrefour et qu'on vous a mis en prison, ne dites pas « Oh, je souffre pour la cause de Christ ». Non, tu souffres à cause de ton péché. Il faut te repentir. C'est ça dont tu as besoin. Mais quand on souffre alors qu'on fait le bien, Pierre dit ici que c'est ailleurs, il dit que c'est même une grâce. Ici. Une vision juste des circonstances difficiles, chers frères et sœurs, c'est une vision qui intègre que Dieu utilise les circonstances difficiles pour nous montrer sa providence, son contrôle sur toute chose. Dieu utilise les circonstances difficiles comme des opportunités pour le progrès de l'Évangile. Et Dieu les utilise aussi pour détourner le croyant des circonstances et l'attacher, lui donner la vraie joie, l'attacher à l'Évangile. Quelques mots de conclusion. Dieu est souverain sur la fin et sur les moyens de toutes choses. Et ça, c'est quelque chose qui ressort de ce passage. Dieu avait dit à Paul qu'il faut qu'il rende témoignage de lui à Rome. Actes chapitre 23, verset 11. Il dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. » Et je suis sûr que dans la pensée de Paul, il ne pensait pas arriver à Rome comme il est arrivé à Rome. Il avait déjà dit qu'il avait le désir d'aller à Rome, qu'il a le désir de partager avec les chrétiens de là-bas. Mais certainement, il n'a pas projeté que ça serait dans les chaînes, après un naufrage et emprisonné pendant 2 ans, que ce serait dans ces conditions-là. Mais il accepte les conditions comme venant de Dieu. Il les accepte dans la soumission. Et s'il nous avait été donné d'écrire le ministère de Paul à Rome, nous aurions commencé par écrire, il rentrait dans la synagogue, etc., etc. Mais pas, il est arrivé en prison et qu'il a été, quelque temps après, exécuté. Deuxièmement, je veux dire que ce qui influencera le plus autour de nous, chers frères et sœurs, ce ne sera pas notre érudition ou notre compétence dans un domaine ou un autre, mais notre attitude dans la souffrance ou dans les afflictions ou dans les situations difficiles. Le témoignage de Christ, est-ce qu'il surgit de nous lorsque nous sommes dans la maladie ou dans la perte d'un être cher? Les sentiments qui étaient en Jésus, comme il est dit, Philippiens chapitre 2, est-ce que c'est ceux-là qui transparaissent lorsque l'on m'offense, ou lorsque l'on me critique, ou lorsque l'on dit du mal de moi? Ce qui a permis le progrès de l'Évangile, ce n'est pas la captivité seulement de Paul, mais c'est son attitude constante de confiance en Dieu dans la captivité. Et donc, c'est cela qui a été le témoignage. Théologien Don Carson, peut-être que vous connaissez, il écrit ceci, il dit « Reconnaissez que les élèves n'apprennent pas tout ce que vous leur enseignez. » Je suis bien placé pour savoir ça. Il dit « Ils ne retiennent certainement pas tout ce que je leur enseigne. » De lui, c'est un enseignant, un théologien. Il dit « Qu'apprennent-ils »
Ils apprennent ce qui m'enthousiasme. Ils apprennent ce que je souligne, ce à quoi je reviens constamment. Ils apprennent ce qui structure ma façon de penser. Et parfois, on veut avoir une influence dans la vie des gens et on pense que c'est simplement par une position, par une connaissance, par une érudition, par une compétence. Ce n'est pas que ces choses sont mauvaises. Attention, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, elles sont bonnes. Mais cet auteur dit, les élèves ne retiennent pas ce qu'ils enseignent. Ils retiennent qu'est-ce qui motive cet homme ici. Et ces gens qui sont venus voir Paul dans la prison, ce n'était pas sa grande connaissance de la parole de Dieu, du dessein de Dieu qui les a certainement frappés. Mais c'est comment cet homme s'est conduit dans cette prison. C'est quelqu'un qui a une intimité avec Christ. Il prie, il parle du Christ, il a une relation avec lui. Et c'est ça qu'ils ont retenu. Un courage dans cette situation, un amour pour le Seigneur. Et ça les a encouragés. Et donc si nous voulons être un encouragement pour les autres, faisons attention à la manière avec laquelle nous agissons ou nous réagissons dans nos circonstances difficiles. Et puis, l'inactivité physique n'est pas synonyme, chers frères et sœurs, d'inactivité spirituelle. Parfois, on pense que si on ne peut pas bouger, si on ne peut pas sauter, frapper des mains, on ne peut pas louer Dieu. Non, ici, Paul était en prison, mais quelle vie fructueuse, n'est-ce pas ? L'évangile se propage, il dit, dans tout le prétoire, toute la garde républicaine, toute la garde prétorienne et partout ailleurs, avec un homme emprisonné ici. Et il disait à Timothée, je suis lié, mais l'évangile n'est pas lié. Je suis lié jusqu'à être comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu, disait-il à Timothée, n'est pas liée. Et puis, la providence de Dieu doit influer sur notre manière de prier. Si je crois que Dieu contrôle toutes les circonstances, cela doit avoir une influence sur ma manière de prier. Quand nous disons à quelqu'un, je suis malade, prie pour moi, qu'est-ce que nous sous-entendons la plupart du temps ? Prie que Dieu me guérisse. C'est ça que l'on entend. Je suis dans cette difficulté. Prie que Dieu m'en délivre. Et c'est extraordinaire de voir comment Paul demande de la prison de Rome aux Éphésiens, il écrit une lettre aux Éphésiens de cette prison, de prier pour lui. Écoutez ce qu'il dit. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Il ne dit pas « prier que Dieu me délivre de cette prison afin que je puisse aller annoncer librement l'évangile dans les rues de Rome ». Il dit « prier pour moi, pour que lorsque je vais ouvrir la bouche, je sois attentif à transmettre correctement Christ et que mon attitude ne vienne pas contredire ce que je dis. Que j'en parle, mais que j'en parle comme je dois en parler, avec la bonne attitude ». Il dit « Priez pour moi » comme ça. Et quand nous prions les uns pour les autres, peut-être que Dieu veut guérir, peut-être que Dieu veut délivrer de cette situation, oui peut-être. Mais ce ne doit pas être notre seul objectif. On doit viser plus que cela. On doit viser à ce que dans cette situation, le chrétien, moi et les autres, nous puissions avoir un bon témoignage. Afin que si plus tard, on écrit à propos de cette situation, puisse dire, je veux que vous sachiez, frère, que cette maladie qui m'est survenue a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ce cancer, cette perte d'un parent, d'un frère, d'une sœur. Et dernier point, la providence de Dieu vous appelle à lui. Si vous ne connaissez pas Christ, eh bien, le fait que Dieu contrôle les circonstances est un appel à venir à lui. Dans 10 ans plus tôt, dans la prison de Philippe, la terre a tremblé. Circonstances difficiles contrôlées par Dieu. Mais cette circonstance difficile a fait réfléchir le geôlier.
Et il est venu se jeter aux pieds de Paul en disant, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Peut-être vous passez par des situations difficiles, mais c'est peut-être une situation voulue, en tout cas, c'est une situation qui est certes sous le contrôle de Dieu. Et certainement, à travers cette situation, Dieu veut que vous vous tourniez vers lui, que vous veniez à lui, que vous disiez comme ce geôlier, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Que faut-il que je fasse? Et la réponse, c'est crois au Seigneur Jésus. Place ta confiance en lui. Repens-toi de tes péchés et tu seras sauvé. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à toujours développer et maintenir une vision juste des circonstances difficiles. Prions.